En Amérique, trois États, New York, le New Jersey et le Connecticut, ont décrété des quarantaines. En Asie, la Corée du Sud, souvent citée en exemple pour sa gestion de l'épidémie de Covid, rétablit l'école à la maison.
Une deuxième vague a été déclenchée par les vacances du mois de mai.
En Europe, l'Allemagne reconfine localement. Un abattoir a été fermé, des quartiers complètement bouclés. Même le Portugal, longtemps épargné, impose des restrictions.
Fermé à 20h, nous allons perdre notre commerce.
Comme à rebours en France, l'activité reprend. Les enfants à l'école, les parents au bureau. Les consignes sanitaires s'allègent avec la réouverture des musées et surtout des cinémas. Pour rassurer les consommateurs les plus craintifs, chacun avance ses arguments.
C'est beaucoup moins risqué aujourd'hui d'aller dans une salle de cinéma que de prendre les transports en commun ou de prendre le train.
Et danser collé serré en plein milieu de la foule pour la fête de la musique, est-ce que c'est grave, docteur ?
Ça fait du bien d'oublier un petit peu, de fêter.
Personne porte un masque là.
C'est pas très respecté, bon, je trouve pas. Hein. Mais bon, que vous, on fait avec. Hein. Il arrivera ce qu'il arrivera. Hein.
Le déconfinement serait-il allé trop vite ? Fallait-il laisser le pays sous cloche ? Même le plus péremptoire des scientifiques se pose des questions.
Il y a des études qui sortent maintenant qui disent « Écoutez, ça marche mieux quand on confine, ça marche mieux quand on confine pas. »
Alors, dans l'attente d'une hypothétique rechute, peut-on reprendre notre vie d'avant sans attendre le vaccin ? Entre santé, économie et liberté, comment choisir ?
C'est ça, c'est donc une question de téléspectateurs inquiets ou pessimistes qui demandent ceci, quelles seraient les conséquences économiques et sociales d'un reconfinement ? Stéphanie Villers, on l'a vu dans le sujet, il y a effectivement des régions qui sont en train de se reconfiner en Chine ou en Allemagne. Est-ce que les économistes ont déjà, vous en faites partie, ont déjà commencé à travailler sur cette hypothèse-là de reconfinement ? Est-ce que c'est une piste de travail ?
Oui, absolument. Il y a, maintenant, en fait, on fait deux scénarios. Un scénario avec... un déconfinement sans reconfinement. Et l'OCDE, la semaine dernière, a livré un deuxième scénario qui est encore pire que le précédent, nous disant si on reconfine, eh bien, par exemple, cette année, on peut imaginer une croissance autour en France qui chute de moins 10 à moins 11%. Eh bien, on irait vers du moins 13, moins 14%.
C'est moins 12%, c'est moins 12% d'ailleurs d'après le FMI.
Voilà, alors ça dépend des organismes. C'est absolument.
Alors Claude, le chiffre du jour.
Qui témoigne de notre fragilité, oui. 239 comme le nombre de clusters, de foyers d'infection qui sont apparus en France depuis le 11 mai quand le déconfinement a commencé. Question pour vous Damien Leguet, est-ce que nous devons apprendre à être modestes face à ce virus qui déjoue notre pronostic, qui est plus fort que nous ?
Moi, je crois qu'on n'a pas été modeste du tout, si vous voulez. Oui. La modestie, c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont. Depuis le début de l'humanité, on a toujours accepté qu'il y ait, comme ça régulièrement, des pandémies qui viennent se rajouter, se glisser dans la vie de tout le monde et faire son travail, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est tragique.
Le travail de pandémie, c'est-à-dire tuer les gens.
Exactement.
La grippe espagnole, la grippe en Hong Kong.
Exactement. On a quand même perdu... Enfin, vous parlez de la grippe espagnole, il y a quand même 50 millions de morts dont personne ne s'est jamais soucié d'une façon ou d'une autre, parce que c'est passé inaperçu. Et on l'a accepté. Parce que Dieu était là, parce que le destin était là, parce que la fatalité était là, parce qu'on a considéré que ça faisait partie de l'équation générale de la vie telle qu'elle était. Et là, on a réagi, surréagi, sur un principe de précaution absolue qui a consisté à, effectivement, à revenir à une solution archaïque, c'est-à-dire le confinement, pour effectivement préserver la vie humaine, la vie des corps, indépendamment de tout le reste. Indépendamment de la liberté, indépendamment du travail, indépendamment de tout ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les relations humaines, la vie humaine, amoureuse, l'amitié, etc.
En quelque sorte, privilégier le vivant à l'humain. Olivier Cibony,
exactement.
Vous souscrivez à cette analyse, parce que d'autres... Oui, une sorte de biopolitique.
Exactement.
D'autres pourraient dire, mais c'est un progrès de l'humanité que de vouloir défendre la santé, sauver la santé des plus vulnérables.
On pourrait dire ça, et je crois qu'on a tous collectivement, pas seulement en France, dans les autres pays aussi, fait ce choix-là de dire on va faire passer la santé avant toute chose, avant l'économie, avant les libertés. On a accepté des restrictions de liberté qui sont absolument sans précédent. Et c'est un choix qu'on est en train graduellement de remettre en cause parce qu'on est en train de se rendre compte que derrière ce choix, il y a en fait aussi des sacrifices pour la santé. on s'aperçoit que, tiens, il y a des gens qui n'ont pas été soignés d'un tas d'autres maladies pendant la pandémie. Absolument. On s'aperçoit qu'il y a des suicides pendant le confinement. On s'aperçoit qu'il y a des tas de conséquences.
Des effets secondaires.
Que les enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant 6 mois, c'est aussi un problème pour eux. Et ce n'est pas un problème économique. Il ne s'agit pas d'enrichir les actionnaires. L'économie, c'est la vraie vie. C'est, comme vous dites, un problème anthropologique en même temps qu'un problème économique.
Et si je peux rajouter un point, le syndrome du glissement. C'est-à-dire, effectivement, vous confinez des vieilles personnes dans les EHPAD et vous leur retirez leur raison de vivre. Leur raison de vivre, ce n'est pas tellement d'être biologiquement en vie, c'est de voir des gens. C'est le lien avec leur famille. Et vous retirez cela. Et donc, le syndrome du glissement, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez plus de raison de vivre. Et donc, vous laissez glisser tranquillement.
Mais Damien Leguay, l'alternative au confinement, c'était des dizaines, des centaines de milliers de morts et des projections là-dessus. Quel pouvoir politique, et je m'adresse à vous trois, quel pouvoir politique pouvait assumer cela, sachant que le confinement retardait l'échéance, qu'il était demandé aussi par la communauté médicale, dans, je vous le rappelle, un pays où les hôpitaux étaient débordés?
À mon avis, aucun. Personnellement, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Peut-être qu'il y a des gens,
différentes.
Mais personnellement, je pense qu'il n'y avait pas d'autre bonne solution. La question qui se pose, c'est comment on va faire maintenant? Et ce que je trouve très paradoxal, c'est que tout le monde a l'air de dire bah, « finalement, maintenant, c'est derrière nous. Regardez, tout le monde est dans la rue, c'est formidable, on peut reprendre une vie normale. » Alors qu'en réalité, on ne sait pas très bien ce qui est en train de se passer et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on va gérer la sortie de cette situation.
On a vu aussi des pays prendre des mesures différentes. On a vu en Suède.
La Suède, par exemple.
Voilà. Mais
pardonnez-moi, la Suède ne s'en porte pas bien. Les pays qui ont choisi de faire différemment, que ce soit la caricature du Brésil ou la civilisation de la Suède, s'en portent moins bien.
Bah, en fait, ils font quand même mieux que l'Espagne. L'Espagne et l'Italie font. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que la maladie touchait plus les personnes âgées. Donc voilà. Donc on aurait pu peut-être confiner plus les personnes, mais ça posait un problème parce que Et on a laissé les actifs rester à confiner chez eux et pas produire pendant 8 semaines. Et ça va nous durer très longtemps pour qu'on se retrouve à un niveau normal.
Le point de comparaison, c'est qu'ils font peut-être un petit peu moins bien que nous, mais surtout 4 fois ou 5 fois moins bien que leurs voisins scandinaves où l'épidémie a commencé au même moment. Et par ailleurs, leur économie ne s'en porte pas tellement mieux. On est en fait dans des économies tellement interconnectées que le choc est un peu moins violent chez eux, mais pas beaucoup moins violent. Donc on ne peut même pas dire que le bénéfice soit très considérable.
Il vient de se passer une chose, pardonnez-moi, parce qu'on est maintenant dans le déconfinement, dans la reprise de l'économie. Le gouvernement a allégé assez nettement les consignes de sécurité sanitaire à l'intérieur des entreprises. Est-ce que c'était une nécessité vitale pour le coup pour l'économie, Stéphanie Villers, que de nous rendre moins précautionneux au boulot?
On a vu que 8 semaines d'arrêt, de pause, mise en pause de l'économie, si tout va bien, au mieux, on a une chute de la croissance de moins 11%. On a un taux de chômage qui va bondir de 8% à 12%.
En France.
Donc ça, en France. Ça, c'est les chiffres, les estimations les plus optimistes.
Si tout va bien.
Donc
nous allions mourir guéris.
Voilà, en fait, il faut que la machine, en fait, a stoppé d'un coup, mais elle repart vraiment très progressivement parce que justement, il y a ces mesures barrières, parce qu'on ne peut pas produire comme avant, et donc ça ralentit. Les gens aussi manquent de confiance, les gens ne savent pas, c'est surtout un problème de consommation. Il faut que la consommation reparte. Or, avec ces perspectives sur l'emploi qui sont quand même encore assez inquiétantes, c'est ce moteur qui est un moteur principal en France, qui est la consommation, qui va permettre de relancer la machine. On ne peut pas demander aux entreprises d'investir. Donc il faut que les ménages se mettent à consommer. Et ça, en fait, ça reste encore une incertitude.
Damien Leguay, le gouvernement, les institutions demandent des choses contradictoires aux Français ou vécues comme telles. Soyez vigilants, soyez extrêmement vigilants et en même temps, reprenez votre vie, consommez par exemple, et reprenez le travail et l'activité. Comment faire avec ces injonctions qui semblent contradictoires?
Moi, je crois qu'il y a deux choses, si vous voulez. La première, c'est qu'effectivement, il y a un modèle en France extrêmement, qu'on a vu, paternaliste. On a considéré qu'il fallait effectivement considérer les Français comme des enfants et leur dire absolument ce qu'il fallait.
En France, plus qu'ailleurs, on était plus paternaliste en France que les autres dirigeants.
Parce que là, on parle de... Je pense qu'il y a deux modèles différents. Il y a un modèle, si vous voulez, du Nord protestant et un modèle catholique. Du midi, si vous voulez. Et donc, on a considéré effectivement qu'il y a un principe catholique, c'est-à-dire d'obéissance à l'autorité papale. Voilà, donc docilité, obéissance. Voilà. Et donc, en France, on a vu effectivement que le président de la République nous a sommé, non pas d'être responsable.
Comme
pas
l'a fait Angela Merkel, par exemple.
Voilà, non pas de nous responsabiliser. Soyez responsables les uns les autres. Modèle protestant, la conscience, la personne, l'individu. Mais je vous dis, vous dites, vous obéissez, vous faites. Et puis si ça vous, si vous n'avez pas compris, la police est là pour...
Vous serez puni.
Pour, voilà, vous êtes puni. Et puis avec la mauvaise conscience, le péché. Ah comment, il y a des jeunes qui sont dans les parcs. Mais c'est extrêmement mauvais. Bon, donc ce modèle-là, effectivement, me semble être très contradictoire avec quelque chose d'autre qui est de dire maintenant, ça y est. Je libère les carcans et allons-y, on repart comme avant, où effectivement, comme le dit madame, c'est la consommation qui est notre moteur de l'économie. Et donc ce moteur de la consommation suppose que chacun se retrouve dans une forme de déconfinement, mais aussi de désangoisse. Mmh. Et l'angoisse, c'est quand même ce que nous avons connu par les médias, par les avis, par ce rendez-vous médiatique tous les soirs en train de vous faire un inventaire de tous ceux qui sont morts. Mais comment sortir de l'angoisse collective ?
Eh bien justement.
Olivier Cibony, nous ressortons, nous faisons la fête, nous manifestons, nous allons mieux. Quand le monde entier ne s'est jamais porté aussi mal, c'est amplement dû à la situation en Amérique latine. Comment gérer cela ? Sommes-nous Français dans une irréalité ou avons-nous raison de croire en notre étoile ?
L'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que le comportement qu'on observe n'est pas complètement rationnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Il y en a une qui est qu'on a été effectivement traités comme des enfants. Donc dès qu'on nous relâche, bah, on se comporte comme des enfants à qui on a dit qu'ils avaient le droit de sortir. Donc ça, c'est normal.
Mais on voit ce qui se passe. On entend.
On entend ce qui se passe. Mais en fait, c'est un problème de... Je crois qu'il y a un problème cognitif. Notre système 2, notre système lent, intellectuel, entend ce que dit le patron de l'OMS. Il entend qu'on nous dit qu'il faut être prudent. Notre système 1, celui de l'émotion, il voit les gens autour de nous, il voit que c'est l'été. Et dans notre inconscient collectif, la maladie, c'est l'hiver. On a beau nous dire que la saisonnalité du virus saute pas aux yeux, qu'en Floride, c'est l'État américain le plus touché, ensuite c'est le Texas, ensuite c'est la Caroline du Sud. Aujourd'hui, à Miami, il fait 32 degrés. Donc s'il y avait une très très grosse saisonnalité du virus qui empêchait la propagation par temps chaud, on s'en serait rendu compte. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que non, en été, quand même, c'est la fête et le seul truc qu'on risque d'attraper, c'est un coup de soleil. C'est compliqué.
Traçage numérique, Nadia, et
oui,
Covid.
Oui, parce qu'il y a le traçage numérique pendant le confinement et puis le traçage numérique pendant le déconfinement, puisque ce déconfinement, il s'est accompagné de plusieurs dispositifs d'outils numériques. On parle par exemple de dispositifs urbains, d'applications mobiles, de stockage de données médicales, ça c'est important, qui ont été mis en place par les gouvernements, et c'est le cas de l'application Stop Covid, on en a beaucoup parlé, ça devait être le fer de lance de la gestion de la pandémie au sortir du confinement, et ça on le sait tous, aujourd'hui c'est un énorme ratage, elle a été téléchargée à peine 2 millions de fois, cette application, elle a été désinstallée par près de 500 000 personnes, et seules 14 notifications d'alerte ont été envoyées, donc c'est plutôt un fiasco, mais surtout on a appris cette semaine qu'elle collectait plus de données que prévu, plus que ce que le gouvernement avait dit, elle compilerait les identifiants de toutes les personnes croisées par un utilisateur pendant la journée et pas seulement celles croisées à moins d'un mètre pendant 15 minutes comme le gouvernement l'avait promis. Et ça n'empêche pas le gouvernement, toujours lui, de prévoir, de promettre la mise en place de nouveaux objets connectés de traçage pour cet été. On ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Et il y a un autre outil de surveillance qui est très très contesté, c'est les caméras de surveillance. Il y avait des caméras qui contrôlaient le port, ou plutôt le non-port du masque à Châtelet-Léal à Paris, la station de métro. Ça a été désinstallé, mais des caméras thermiques vont être là, des au cours des prochains jours sur le territoire et notamment dans les aéroports pour contrôler les températures des voyageurs. Et ça, ça inquiète la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui dénonce, je cite, une banalisation de ces technologies intrusives pendant le déconfinement. Elle dit également qu'on s'est d'une certaine manière habitué à ça. Damien Le Guay, est-ce que nous, Français, peut-être dans d'autres pays, on a décidé consciemment ou non de sacrifier nos libertés de déplacement, même hors confinement, au nom de notre survie?
On a quand même constaté, si vous voulez, qu'effectivement, nous avons abandonné nos libertés, ou nos libertés ont été reprises, liberté de déplacement, liberté de rencontre, liberté, etc., pendant un laps de temps déterminé. Après, il y a un deuxième effet.
Voilà, le deuxième temps.
Deuxième temps qui est de dire, bon, on va profiter de ce premier temps-là pour transformer l'essai en essayant de faire encore plus que ce que les GAFA nous font déjà. C'est-à-dire
grandes entreprises du numérique, donc Google,
voilà, Facebook, etc. C'est-à-dire une intrusion dans l'intimité. C'est-à-dire, on peut se dire, la politique, c'est ce que Orwell pensait, a ses limites. Ouais. Et donc, le plus important, c'est ma part d'intimité préservée, qui n'appartient qu'à moi et dont je suis seul responsable. À partir du moment où l'État, ou les GAFA, ou pour des raisons d'hygiène, hygiéniste, vient faire une intrusion dans mon intimité.